retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal d'où on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi rue des étoiles.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Radio Galaxie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Et nous continuons notre poursuite spatiale, stellaire, avec Jordan du Balcon des Étoiles pour ses nouvelles du ciel. Jordan, bonjour.
Bonjour.
On est au printemps. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel ces derniers temps?
Et oui, ça y est. Nous avons passé donc l'équinoxe de printemps. Ce qui signifie du coup que les nuits vont être plus courtes à partir de maintenant. Jusqu'au solstice d'été, fin juin.
Oui, donc les nuits sont plus courtes, le soleil est beaucoup plus présent, donc c'est ce qui produit le réchauffement du printemps.
Voilà, exactement, puisque du coup, l'axe de rotation de la Terre, qui est incliné de 23 degrés, la position de la Terre autour du soleil varie, et donc quand on arrive au printemps, cet axe semble se tourner vers le soleil, ce qui fait que toute la partie hémisphère nord, côté jour, eh bien, est un peu plus exposée au soleil, ce qui fait que les rayons du soleil nous arrivent plus verticalement, et donc moins de déperdition de chaleur, et donc il fait plus chaud, voilà.
Et inversement dans l'hémisphère sud.
Et inversement dans l'hémisphère sud, ou pendant l'été, donc chez nous dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver pour eux.
Tu nous dis que l'axe de la Terre est de 23 degrés, c'est ça?
23 degrés quelques, oui.
Cet axe, il est permanent, il bouge dans le temps.
Alors oui, c'est un aussi des nombreux mouvements qu'on retrouve donc pour notre planète. C'est un axe donc qui évolue dans le temps. Alors pas au jour le jour, mais au cours de quelques milliers d'années, l'axe va donc évoluer comme il l'a déjà fait par le passé. Et donc par exemple aujourd'hui, cet axe pour nous dans l'hémisphère nord qui nous donne comme étoile la position du nord, c'est l'étoile polaire. Eh bien, il y a quelques temps de ça, par exemple au temps des Égyptiens, hein, eh bien, durant l'Antiquité, c'était une autre étoile qui donnait cette direction. Et dans le futur, quelques milliers d'années, ça en sera encore une autre, je crois, qui sera située dans la constellation du Dragon.
Donc, on vient de passer l'équinoxe. Quelles sont les autres actualités dans notre ciel?
Alors, les lève-tôt ont remarqué effectivement qu'avant le lever du soleil, donc sur l'horizon est, on peut remarquer trois planètes, et donc une quatrième viendra se rajouter pour le mois d'avril, voilà, donc au petit matin, voilà, avant que le soleil se lève, on pourra observer au-dessus de l'horizon Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, très brillants au-dessus de l'horizon.
Il y a un moyen de les reconnaître?
Alors peut-être que certains pourront différencier Mars des trois autres, puisque Mars a une couleur un peu plus rouge, un peu plus colorée que les trois autres, qui sont plutôt blanchâtres.
On la verra pas rouge, on la verra plutôt orangé ou jaune plus que blanc, c'est ça?
Voilà, alors Mars, voilà, c'est pas tellement rouge, c'est plutôt orangé, effectivement, voilà.
Ensuite, si mes souvenirs sont bons, il y a des chances qu'on ait des pluies d'étoiles filantes.
Et comme chaque année, fin avril, nous avons pluie d'étoiles filantes, donc les Lyrides et les Poupides, donc, qui sont deux pluies d'étoiles filantes pour le week-end du 22 au 24 avril. C'est un week-end, voilà, où il faudra sortir le soir s'il fait beau pour observer des étoiles filantes.
C'est quoi ces pluies d'étoiles filantes? C'est quoi le phénomène qui se passe derrière?
Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, la Terre, continuant son chemin sur son orbite, passe dans ce qui reste de la trajectoire d'une comète. Comète, donc, un astre qui, en s'approchant du Soleil, laisse sa magnifique chevelure derrière elle, faite de poussière et de gaz. Et lorsqu'on a des comètes qui repassent plusieurs fois sur la même trajectoire, et que cette trajectoire passe sur l'orbite de la Terre, eh bien lorsque la Terre passe dans ce nuage, ces poussières rentrent dans l'atmosphère terrestre et provoquent le phénomène donc des étoiles filantes.
Ces étoiles filantes, c'est des poussières ou des petits morceaux de ces comètes qui se désintègrent dans notre atmosphère, c'est ça?
Voilà, juste des plus petits même qu'un grain de sable.
Plus petit qu'un grain de sable, ça fait une étoile filante.
Voilà. Plus gros, après, c'est plus lumineux et ça dure plus longtemps.
À propos de ça, est-ce qu'il y a beaucoup de des risques de retombées de météorites, de choses comme ça, à ces moments-là?
Non, c'est pas un risque qui est plus élevé, je dirais, que d'habitude, puisqu'il faut savoir quand même que chaque jour, il y a quand même une bonne tonne d'objets qui tombent sur Terre. La plupart retombent dans l'océan, puisque 70% de la surface de notre planète est recouverte d'eau. Mais tous les jours, on a des objets qui tombent sur Terre, donc le risque n'est pas forcément plus accru.
Pour voir ces objets qui tombent sur Terre et pour prévenir ces objets qui tombent sur Terre, on a mis en place des télescopes qui observent tout ça de très très loin, qui permettent d'observer les étoiles et les objets nous environnant. Et je vais parler justement du télescope James Webb, qui a été lancé l'automne dernier, je crois, et qui a été très bien lancé parce qu'on a eu des images magnifiques depuis.
Exactement. Alors le James Webb, lui, n'observera pas spécialement tout le temps des astéroïdes dans notre système solaire, même si c'est prévu sur son emploi du temps. Alors effectivement, il a été lancé le 25 décembre, voilà, pour le jour de Noël. On a eu un très très beau cadeau de Noël au niveau de l'actualité spatiale. Et depuis, il a rejoint une partie donc de l'espace qu'on appelle le point de Lagrange L2, qui est une partie de l'espace dans lequel les objets que l'on place artificiellement reste dans cette position par rapport à la gravité du Soleil et de la Terre qui les maintient donc dans cet équilibre.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque qu'ils se déplacent plus près du Soleil ou plus près de la Terre, c'est ça?
Non, voilà. Alors, il tourne autour de ce point, mais il va rester dans cet espace-là, voilà.
C'est un peu l'expérience qu'on fait entre deux aimants qui s'attirent et l'objet qui reste juste au milieu de ces deux aimants.
Voilà, c'est un équilibre qui se passe au niveau de la gravité entre notre planète et le Soleil.
Qu'est-ce qu'il nous a apporté pour l'instant, James Webb?
Alors pour l'instant, il nous a apporté surtout des images de calibration, puisque normalement, courant printemps, et peut-être au mois d'avril, ou au mois de mai après, il devrait donc se lancer dans les vraies opérations donc scientifiques. Mais déjà, ceux qui ont pu observer, et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire, observer cette première image de calibration où l'on voit une étoile qui avait été prise aussi par un de ses ancêtres, on va dire, télescopes, qui observait, qui était de la même catégorie que le James Webb. Et on a pu voir cette étoile en très haute résolution. Et même les scientifiques eux-mêmes, les astronomes eux-mêmes, ont été étonnés de voir derrière des galaxies qui ne pensaient pas apparaître derrière. Donc c'est vraiment un instrument qui va apporter beaucoup à la science.
Qui commande ce James Webb? C'est-à-dire, qui passe les commandes pour savoir ce qu'il faut mesurer, ce qu'il faut trouver, ce qu'il faut rechercher?
Alors, c'est le même institut que celui qui est en charge encore des opérations scientifiques du télescope spatial Hubble. C'est un institut qui s'appelle donc Space Telescope Science Institute, qui est américain, donc en collaboration avec la NASA, bien sûr, et qui est très très longtemps à l'avance, puisque ce genre d'opération, quand on veut effectuer une observation au travers de ces télescopes spatiaux, et il faut s'y prendre bien à l'avance, même avant qu'on ait lancé le James Webb. Et donc c'est eux qui sont en charge de catégoriser un petit peu ces observations, celles qui seront le plus appropriées pour le télescope, celles qui semblent davantage intéressantes. Voilà, donc c'est un comité qui s'occupe de gérer ce genre d'opération et de mettre en place les observations. Voilà.
Il peut y avoir quand même une certaine réactivité, c'est-à-dire que si jamais j'observe quelque chose d'intéressant ou d'important que j'ignorais totalement, je peux depuis la Terre envoyer une commande et prendre un cliché ou déplacer légèrement l'orientation de ma caméra?
Oui, voilà. Alors effectivement, on programme ces observations longtemps à l'avance, déjà sur le papier par rapport à nous sur Terre. Ensuite, lorsqu'on envoie ces commandes, puisqu'on ne peut pas le piloter en direct, on envoie des commandes informatiques, à savoir qu'effectivement, quand même, on a une réactivité de quelques jours qui permet, si jamais on a un événement qu'on n'avait pas prévu, par exemple, les scientifiques du James Webb, on parlait notamment de la mort d'une étoile, on ne peut pas le prédire, donc, et le James Webb, donc, qui pourrait effectivement, dans les quelques jours à venir, reporter son programme d'observation pour pouvoir spécialement observer cette étoile-là qui aurait explosé. Donc c'est vraiment une belle réactivité au niveau des instruments, même sur quelques jours.
Et même chose, le temps de réception des données, c'est quelques jours aussi.
Alors oui, effectivement, lorsque le télescope en lui-même fait les observations, il stocke toutes les données qu'il capte dans une sorte de disque dur, hein, c'est aussi un ordinateur, hein, bien sûr. Et lorsque les opérations sont finies, eh bien, on passe à l'envoi de ces observations qui se font donc tout autour de la Terre avec donc des antennes relais qui renvoient ensuite toutes ces données au centre donc cité précédemment.
Ça, c'était pour James Webb et les observations dans l'espace. Mais quand on revient un peu sur Terre, avec les observations sur Terre, on a parlé de l'équinoxe tout à l'heure et on a aussi vécu ces derniers jours, ces dernières semaines, le changement d'heure. On est repassé à l'heure d'été. Qu'est-ce que c'est que ce changement d'heure? C'est quoi ce décalage par rapport au Soleil?
Alors, le changement d'heure, c'est quelque chose que l'on connaît déjà depuis de nombreuses années. C'est plutôt une décision politique plutôt qu'autre chose. On sait que donc en Europe, on a essayé avec l'Union européenne pour faciliter la diplomatie, de faire en sorte que la plupart des pays de l'Union européenne soient à peu près sur la même heure. Et cette décision donc de changement d'heure, qui était pour l'époque pour des raisons, on avait dit économiques, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, le changement d'heure, c'est quelque chose, au niveau donc astronomique, on sait bien que c'est pas forcément une bonne chose pour autant.
Pour l'instant, là on est en heure d'été, par rapport au soleil, on est plus près de l'heure solaire, plus loin de l'heure solaire?
Alors là, il faut savoir qu'en heure d'été, on est décalé de 2 heures de l'heure solaire, donc de l'heure du soleil. L'heure du soleil qu'on devrait effectivement donc avoir sur nos montres, puisque c'est l'heure naturelle, l'heure donc à laquelle on se lève, c'est avec le soleil qu'on se lève et c'est avec le soleil qu'on se couche. Donc c'est 2 heures de décalage.
Ce qui veut dire que lorsqu'il est midi à ma montre, qu'il est 10 heures au soleil.
Exactement.
Et l'heure d'hiver, en fait, je suis à 1 heure de décalage.
1 heure de décalage, voilà.
C'est vrai que ce changement d'heure, il y a des polémiques qui sont créées autour parce que ça crée quand même des manifestations organiques. Par exemple, pour les animaux qu'il faut nourrir avec ce décalage, c'est pour les mêmes heures de nourriture. Même pour nous, au niveau des temps de sommeil, peut-être.
Oui, tout à fait, puisque donc il était question à un moment donné de ne garder plus qu'une seule heure. Et la question avait été posée donc à tout le monde, et à savoir que c'était 50-50. Les avis étaient partagés en deux, donc entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. À savoir que si l'on gardait l'heure d'été en plein hiver ou plein cœur de l'hiver, donc mois de décembre et de janvier, ce serait effectivement quelque chose de catastrophique, surtout pour ceux qui se lèvent tôt et très tôt même, et qui travaillent donc la matinée, notamment par exemple ceux qui travaillent sur les marchés ou même les agriculteurs, puisque on a calculé effectivement que au mois donc de décembre, hein, le 21 décembre, le jour donc du solstice d'hiver, donc la nuit la plus longue et le jour le plus court, ceux qui commencent à travailler à 6 heures ne verront le soleil se lever qu'à 10 heures. Ça fait passer déjà 4 heures de travail en pleine nuit et dans le froid en plus en hiver.
Pourquoi est-ce qu'on aurait préféré garder l'heure d'été plutôt que l'heure d'hiver?
Certains voudraient garder l'heure d'été puisque durant l'été, c'est plutôt bien, voilà, pour le barbecue, pour les sorties entre amis ou en famille, même si c'est vrai que des fois le barbecue, on le fait traîner, voilà, un petit peu en été après l'apéro et qu'il fait déjà nuit.
On en arrive maintenant à l'actualité du Balcon des Étoiles, Jordan. Alors, toi, en tant qu'animateur du Balcon des Étoiles, qu'est-ce que vous avez organisé pendant ce mois d'avril?
Eh bien, tout d'abord, nous avions organisé le vendredi et samedi 1er et 2 avril, au soir, le marathon de Messier, voilà, donc, qui était donc un événement qui a permis de s'intéresser au catalogue Messier et d'observer donc normalement les 110 objets durant la nuit, puisque c'est le but donc d'avoir avec soi donc le catalogue des 110 objets et de les retrouver tous, de pouvoir les observer tous donc durant une nuit.
Et régulièrement vous organisez également sur le Balcon des Étoiles des repas.
Alors le repas, voilà, donc en général ça commence à 19h. On accueille donc le public pour parler un petit peu d'astronomie avant d'attaquer un bon petit repas qui, suivant la saison, va tenir chaud ou moins chaud et qui permet de parler d'astronomie, d'échanger aussi avec les gens et ensuite, après le repas, de passer à l'observation, donc lorsque la nuit est tombée, et d'observer comme ça, voilà, jusqu'en fin de soirée, 23h minuit.
C'est des observations à l'œil nu avec du matériel?
un petit peu de deux, voilà, un petit peu d'œil nu. On commence tout doucement à gravir les échelons. Et après, on passe aux instruments pour pouvoir observer plus précisément les objets qu'on observe donc à l'œil nu.
C'est des choses qu'on peut pratiquer en famille ? Il y a besoin de connaissances particulières pour venir à ces dîners ?
Non, c'est ouvert au tout public. On peut participer effectivement en famille, avec les enfants aussi, ou entre amis. Voilà, vous avez aussi la possibilité, lorsque vous viendrez donc au Balcon des Étoiles, profiter donc de nos soirées ou de nos dîners, d'acquérir le calendrier donc des événements astronomiques pour l'année 2022 qui vous permettra, mois par mois, de connaître toutes les belles choses à observer au jour le jour.
Comment je fais pour m'inscrire à ces découvertes du ciel le week-end ?
Tout se passe du coup sur notre site internet www.les-pléiades.asso.fr.
Et puis, je crois savoir également que sur ce mois d'avril, vous organisez un stage.
Tout à fait. On organise donc le week-end donc du 22 au 24, les stages première et deuxième étoile qui vont vous permettre donc de vous initier en astronomie.
C'est comme au ski, ça ?
Voilà. Alors, effectivement, les premières et deuxième étoiles, ça fait penser un petit peu au ski, sauf que là, c'est sur l'astronomie, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors, durant la première étoile, donc, on commence à s'intéresser un petit peu à l'astronomie. On apprend toutes les choses basiques qu'il faut connaître en astronomie pour connaître donc le mouvement des astres dans le ciel, apprendre à connaître un petit peu notre système solaire et apprendre donc les bases de l'observation, notamment donc un petit peu à l'œil nu, et les bases qu'on pourrait avoir donc avec, par exemple, de petits instruments comme une paire de jumelles ou une petite lunette, par exemple.
Ça se passe en journée, c'est de quelle heure à quelle heure, il faut prévoir un repas.
Pour les stages étoiles, ça se déroule donc à partir de 10h le matin jusqu'à la pratique au soir où ça peut durer jusqu'à 23h minuit. Voilà, donc une journée bien complète. Pas besoin de prévoir le repas, c'est compris donc dans la prestation. Et donc vous pouvez aussi donc déguster de très bons repas faits par notre équipe.
Ça s'adresse à qui ? Plutôt à des jeunes ? À tout le public également ?
Tout public également, voilà. Il suffit d'avoir un petit peu de curiosité, sans être obligé de venir, peut ne rien connaître à l'astronomie, et venir quand même, donc si on est intéressé, c'est vraiment ouvert à tout le monde, voilà.
Ça, c'était la première étoile. Et la seconde ?
Et la seconde, eh bien, on va un petit peu plus loin, voilà, hein, comme pour toute formation. La deuxième étoile sera un peu plus intense au niveau des informations. Là, on passe à du vocabulaire qui de suite est un peu plus sérieux, mais c'est dans l'ordre des choses, sans vouloir faire paniquer les gens non plus. Et donc, deuxième étoile, là, on va s'intéresser plus à l'instrumentation, comment fonctionne un instrument d'observation, comment le régler, comment pouvoir bien l'installer pour pouvoir bien observer les observations que l'on fait après le soir.
J'imagine que pour réserver, il faut aussi passer par votre site internet.
Voilà, exactement, oui.
Et il y aura toutes les informations dessus concernant les modalités d'inscription, les tarifs, etc.
Exactement.
Si mes souvenirs sont bons, toi, tu es passé par ces stages avant d'intégrer le Balcon des Étoiles.
Et oui, tout à fait. Oui, je suis passé par là aussi. Donc, ça permet, donc, vous voyez, même tout type de gens, même de devenir après donc animateur en astronomie.
Jordan, merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler du Balcon des Étoiles, de ce mois d'avril, de l'équinoxe et du changement d'heure. À très bientôt. Et puis, pour le mois prochain, le mois de mai, d'autres surprises nous attendent certainement plein le ciel. Et gardez les étoiles dans vos yeux. À très bientôt. Au revoir, Jordan.
Au revoir. Merci.
Un soir sur le bord du chemin, il y avait une étoile, je l'ai ramassée. Elle m'a souri au creux des mains, comme si c'était normal, je crois qu'elle m'attendait.